Le Périgord est une terre au vert paysage. Les rivières, ici la Vézère, serpentent au milieu de plaines cultivées, souvent bordées de collines calcaires au relief adouci. Les flancs ensoleillés de ces collines recèlent ici ou là des lambeaux de pelouses xérophiles, reliques du temps où l'élevage extensif du mouton entretenait un faciès de causse sur les zones les moins fertiles. C'est en ces lieux particuliers qu'on découvre, au hasard de la promenade, l'entrée du nid de la fourmi moissonneuse, Messor capitatus. Cette entrée est matérialisée par un monticule de détritus végétaux. Pendant la belle saison, les fourmis s'affairent pour engranger les provisions. La végétation qui entoure les nids est basse et laisse apercevoir le sol caillouteux. Elle est en grande partie à composante méditerranéenne. Le serpolet, le liseron de Biscaye, le mouron bleu, la brunelle blanche sont au rendez-vous du mois de juin. Les petites cistacées, tels l'hélianthème pulvérulent aux pétales fripés, fleurissent aussi en fin de printemps. Ces fruits seront l'occasion d'abondantes cueillettes. L'Hypocrepis commosa, bien représenté sur ses pelouses, sera lui aussi récolté. Les têtes bleues de la globulaire vilcomi offriront à leur tour au cœur de l'été des fructifications très recherchées. Les graminées typiques de ces pelouses, fétuc et choléria, seront l'objet de très actives moissons de la mi-juin à la fin juillet. Mais leurs graines minuscules ne sont jamais retrouvées dans les greniers. Elles sont consommées immédiatement. Parmi l'assortiment des graines décortiquées par les fourmis, on peut reconnaître ainsi celles des cistacées très sombres et polygonales et les petits croissants verts de l'Hypocrepis. Résultat de ce travail de cueillette et de préparation, les balles des graines s'amoncellent à l'entrée des nids. La fouille d'un nid nécessite un important travail de terrassement qui conduit à déplacer environ 2 mètres cubes de terre. Il faut dépasser les 15 ou 20 cm de terre végétale pour atteindre les premières chambres de la fourmilière. À l'époque des récoltes, celles-ci contiennent des graines non décortiquées. Plus profondément, nous rencontrons les larves, les plus âgées étant les plus superficielles. Les très jeunes larves restent en profondeur. Les jeunes ouvrières, à peine pigmentées, maladroites et encore cantonnées à la nurserie, ont déjà le réflexe de déménager le couvain pour le mettre à l'abri de la lumière. Au même niveau que les chambres à couvain, ou plus bas, les graines propres et saines remplissent les greniers. Ce sont les réserves alimentaires de la société. Et, à l'abri des galeries profondes, les fourmis mastiquent les graines. C'est un travail collectif effectué tête en bas, les pattes accrochées au plafond des galeries. Mais la consommation des graines n'est pas chose simple. Elle est intéressante à détailler. Une semence à l'enveloppe coriace est tout d'abord décortiquée. C'est un travail laborieux, nécessitant l'intervention de plusieurs fourmis. Et ce travail sollicitera d'autant plus l'intérêt des insectes qu'il est plus avancé. Si les fourmis disposent de grains de blé, elles les entament toujours par la zone de l'embryon. 2 ou 3 jours sont nécessaires pour venir à bout d'un de ces grains. De très nombreuses fourmis s'y attaquent à tour de rôle. L'aliment est pincé à l'aide des mandibules, qui opèrent ainsi une trituration. Puis, les mandibules entrouvertes, immobiles, la langue s'applique en un léchage appuyé. De très longues séquences de léchage ne signifient pas pour autant une prise d'aliments, car il y a d'abord une insalivation de la graine, intervenant lorsque la langue est protractée. Au bout de 2 jours environ de cette mastication, le grain de blé se transforme en un élément ductile, très bien fragmenté et légèrement brillant car humecté de salive. Les fourmis continuent de lécher cette pâte, mais c'est seulement à ce stade que se produit réellement l'absorption. En résumé, la consommation d'une graine nécessite plusieurs étapes préparatoires. D'abord le décortiquage, puis la mastication et l'imprégnation de salive. Et ce n'est qu'après ces longs préliminaires qu'intervient l'absorption proprement dite de cet aliment devenu pâteux. Et tout ceci reste une activité essentiellement communautaire. Une graine arrivée à cet état avancé de préparation est un bien précieux qui n'est jamais laissé à l'abandon sur le sol du nid, mais toujours tenu à bout de pattes et de mandibules en une posture caractéristique. Ceci parfois durant de longs moments. Mais avant de poursuivre l'analyse des mécanismes de l'alimentation de Messor capitatus, et pour mieux saisir à la fois leur originalité et leurs points communs avec ceux des autres fourmis, il est nécessaire d'établir une comparaison avec une fourmi au régime alimentaire banal. Par exemple, Camponotus vagus. Ce gros Camponotus vit dans les troncs d'arbres laissés à l'abandon depuis longtemps. C'est une fourmi nocturne, polyphage, au régime sucré-carné, comme la plupart des fourmis. Ici, on assiste au dépeçage d'un grillon. La proie est mise en pièces à l'aide des mandibules, puis les morceaux charnus sont pincés, pressés, pour en faire sourdre les sucs qui sont absorbés par l'échage. On peut proposer à ces Camponotus du miel coloré en vert et mélangé à du sable pour l'épaissir. L'aliment est avidement léché. Les grains de sable, trop gros pour être ingérés, deviennent progressivement très visibles. La fourmi repue s'éloigne quelque peu de la nourriture, puis émet une boulette verte. C'est un déchet correspondant au contenu de la pochette infrabuccale. Préparons maintenant une nourriture plus complexe, comprenant du pollen de fleurs, du miel coloré par du vert malachite, colorant hydrosoluble, et de l'huile d'arachide teintée par du rouge soudan 3. Cette pâtée comprend donc une phase huileuse rouge, une phase solide le pollen et une phase aqueuse le miel vert. Et les donner aux fourmis qui s'en régalent. Vue de profil, la langue de l'ouvrière Camponotus est animée de mouvements rapides, les palpes labiaux et maxillaires restant vers l'arrière. Par instant, on surprend des mouvements de déglutition. Périodiquement, les fourmis vidangent leur pochette infrabuccale chargée de particules. Au bout de quelques heures d'une telle alimentation colorée, le fond du nid se trouve ainsi jonché de ces minuscules pelotes de régurgitation dont les fourmis ne s'occuperont plus. Nous rechercherons plus tard le chemin emprunté par cette préparation colorée dans le tube digestif de la fourmi. Mais d'abord, ouvrons la tête de quelques Camponotus vagus provenant directement de la nature. L'ouvrière montre une paire de glandes jaunes situées en avant du cerveau. Ce sont les glandes post-pharyngiennes, vues ici de profil. Ces mêmes glandes sont très développées chez la reine. Elles existent aussi chez le mâle. Dans tous les cas, le contenu de ces glandes est huileux. Ces glandes sont caractéristiques de l'ensemble des fourmis. Présentes chez toutes les espèces et dans toutes les castes, elles sont une évagination du pharynx. Formation paire, ramifiées en doigts de gant dans la tête, elles sont en continuité avec le plafond buccal et sont revêtues intérieurement d'une très fine cuticule. Si l'on ouvre maintenant la tête d'un Camponotus qui a consommé l'aliment coloré, nous découvrons que ses glandes post-pharyngiennes sont colorées par l'huile rouge de la préparation. Au-dessous du pharynx, à la face inférieure du plancher buccal, la pochette infrabuccale apparaît comme une petite masse vert vif. Celle-ci se voit particulièrement bien si l'on fait basculer le pharynx et les glandes vers l'avant. Le jabot, situé dans le gastre, contient à la fois du liquide vert et de l'huile rouge. Vu au microscope, le contenu de la pochette infrabuccale révèle de très nombreux grains de pollen et quelques gouttelettes d'huile rouge. Le contenu du jabot est beaucoup plus liquide que l'aliment de départ. Il y a eu filtration efficace du pollen au niveau de la bouche de Camponotus et seuls quelques grains parmi les plus petits sont arrivés jusqu'à lui. Avec mes sœurs, il n'est pas possible de répéter la même expérience, car cette fourmi granivore se refuse à absorber des aliments sucrés. On va donc opérer différemment et préparer un mélange d'amidon, substance qu'elle a coutume de rencontrer dans son alimentation, et d'eau bleuie au bleu de méthylène. Les messeurs viennent s'abreuver longuement de cette préparation. Le mouvement d'absorption est beaucoup plus lent que chez Camponotus. Il en est toujours ainsi chez cette espèce. Le colorant ne pénètre pas dans les glandes post-pharyngiennes. En revanche, la pochette infrabuccale est bleu vif. Quant au jabot, il est bleu et transparent, l'eau seule y ayant pénétré. Donnons maintenant au messeur de la noisette écrasée dans un peu d'eau et colorée en vert par une solution huileuse de chlorophylle fraîche. La dissection de la pochette infrabuccale atteste que cette fourmi a bien consommé cet aliment. C'est alors que les glandes post-pharyngiennes apparaissent rouges sous un faisceau de lumière ultraviolette, car la chlorophylle y a pénétré avec les matières huileuses et c'est elle qui fluoresce ainsi en rouge vif. Le jabot, lui aussi, présente cette intense coloration. Ainsi, quelle que soit l'espèce de fourmi étudiée, les glandes post-pharyngiennes se révèlent comme une structure originale dont la particularité est de drainer vers leur lumière la fraction lipidique ou liposoluble du bol alimentaire. C'est un cas, semble-t-il, unique chez les insectes. Le contenu habituel de la pochette infrabuccale de Messor révèle au microscope de très nombreux grains d'amidon. En revanche, on n'en trouve jamais dans le jabot. La filtration particulière au niveau de la bouche est donc très efficace chez cette espèce, plus efficace en tout cas que chez Camponotus. Mais revenons à celui-ci et ouvrons l'intestin moyen. Au microscope, il n'y a plus de traces de grains de pollen. S'ils étaient passés, on devrait immanquablement retrouver à ce niveau leurs enveloppes indigestes. On doit alors conclure qu'une deuxième barrière s'est interposée sur leur passage. Il s'agit en l'occurrence du gésier, dont l'anatomie sophistiquée ne laisse filtrer que des éléments liquides ou colloïdaux. L'intestin moyen des fourmis adultes est dépourvu de membranes péritrophiques. Il n'y a aucune protection des cellules de l'estomac contre les agressions des particules solides. Est-ce pour cette raison que celles-ci n'y pénètrent pas? Chez Messor, le gésier est beaucoup plus simple. Ses systèmes internes de filtration sont relativement lâches, mais comme le jabot ne contient jamais d'éléments figurés, tels les grains d'amidon, une barrière filtrante très efficace à ce niveau semble alors superflue. Chez Camponotus, qui pratique la trophallaxie, il y a un mouvement de va-et-vient possible des aliments entre le jabot et l'extérieur. Ceci donne l'occasion à cette fourmi de se libérer, le cas échéant, de particules indésirables. En revanche, chez Messor, la trophallaxie n'existe pas. Son jabot, jamais très replet, ne fonctionne apparemment que dans un seul sens, et surtout n'admet que des substances très fluides. Or, les hydrates de carbone des graines précipitées en grains d'amidon sont arrêtés au niveau de la pochette infrabuccale. On est en droit de se demander si ces fourmis granivores tirent parti ou non de cet aliment. On a pu montrer que, lors de l'insalivation des graines, les glandes labiales situées dans le thorax et s'ouvrant à la base de la langue produisent une salive qui non seulement ramollit l'aliment, mais encore hydrolyse les hydrates de carbone et en particulier les grains d'amidon. Ainsi, seules les particules ayant subi une digestion extra-orale pénétreront jusqu'au jabot. La toilette est une activité importante qui ponctue à maintes reprises la préparation des graines. Les antennes et les pattes antérieures sont tout particulièrement soignées. Qu'en est-il maintenant de l'alimentation des larves? Dans un nid expérimental, on ne les voit jamais consommant directement un fragment de graine, préparé ou non. Elles sont nourries bouche à bouche par les ouvrières, mais l'échange toujours furtif est difficile à surprendre. Leur tube digestif apparaît comme un long sac flanqué de deux grosses glandes salivaires opalescentes terminé par un filament sécréteur blanchâtre. Ces glandes, les seules développées chez la larve, correspondent embryologiquement aux glandes labiales de l'adulte. Mais contrairement à celles-ci, elles ne sécrètent pas d'amylase. Le contenu du tube digestif est emballé dans une membrane péritrophique. Pas plus que chez l'adulte, on y décèle de grains d'amidon. Ceci confirme que la larve est tributaire pour son alimentation de la prédigestion des adultes, le bouche-à-bouche lui apportant par petites lampées une nourriture déjà élaborée. Tentons maintenant une curieuse expérience. À l'aide de chlorophylle, colorons le système alimentaire d'ouvrières de Messor. Les glandes post-pharyngiennes restent vivement fluorescentes pendant plusieurs jours. Par contre, dans le même intervalle de temps, la fluorescence du jabot s'éteint par suite des phénomènes de digestion. À ce moment-là, donnons à ces ouvrières des larves à soigner, puis disséquons-les. Le tube digestif de la larve montre des petits points rouges fluorescents, indiquant que lors du bouche-à-bouche, un peu du contenu des glandes post-pharyngiennes a été régurgité aux larves. Les mécanismes alimentaires chez ces fourmis apparaissent donc comme ayant une dynamique fort complexe. La plupart des espèces de fourmis consomment des aliments juteux, bien adaptés à la conformation de leur appareil buccal de type broyeur-lécheur. De plus, divers dispositifs de filtration freinent à différents niveaux toute entrée éventuelle de particules solides dans l'intestin moyen. Paradoxalement, les messeurs, consommatrices de graines sèches et dures, ont aussi le même système buccal, peu adapté à ce genre d'aliments. Aussi tournent-elles la difficulté en ramollissant et prédigérant leurs graines à l'aide de salive. Par ailleurs, on peut considérer que ces fourmis, grâce à leur comportement d'approvisionnement en masse des greniers et à leur prise de nourriture communautaire très élaborée, ont trouvé, en fin de compte, une réponse adaptative originale à leur absence de trophallaxie.